Bienvenue sur le podcast d'affaires et entreprises.
Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans une histoire économique qui a, franchement, tout d'un thriller financier.
Bonjour.
Deux pays voisins, membres de la même union monétaire, on pourrait s'attendre à des trajectoires assez similaires.
Oui, logiquement.
Et pourtant, l'un est en pleine ascension, salué par les marchés, pendant que l'autre est en pleine tourmente, aux prises avec une dette cachée monumentale. On parle bien sûr de la Côte d'Ivoire et du Sénégal.
C'est un véritable cas d'école. Et ce grand écart, on va essayer de le comprendre aujourd'hui. On va décortiquer ce qui se passe en s'appuyant sur les analyses des agences de notation, comme Fitch, S&P et bien sûr les rapports du FMI.
L'idée, c'est de voir comment on en est arrivé là, quels sont les risques pour toute la région et ce que ça nous dit au fond sur la gouvernance et la confiance en Afrique de l'Ouest.
Exactement.
Point ABB, pour ceux qui sont moins familiers. C'est un très, très bon signal envoyé aux investisseurs. Qu'est-ce qui explique cet optimisme?
Alors, il y a deux piliers principaux. Le premier, et c'est sans doute le plus important, c'est la stabilité politique. Fitch utilise une phrase assez forte. Ils disent que le pays a réussi à tourner la page de son histoire de troubles civils majeurs liés aux élections. La relative accalmie autour de l'élection de 2025 s'est vue comme une preuve de maturité.
D'accord, la stabilité politique. C'est crucial, bien sûr. Mais certains pourraient dire que cette stabilité s'est construite sur un paysage politique un peu verrouillé. Est-ce que les agences de notation font la différence ou est-ce que, pour elles, l'important, c'est pas de vague?
C'est une excellente question. En fait, pour un investisseur, la priorité absolue, c'est la prévisibilité.
D'accord.
Ce qu'ils évaluent, c'est la capacité d'un gouvernement à définir une stratégie à long terme et à s'y tenir, sans être interrompu par des crises. Et sur ce point, la Côte d'Ivoire offre des garanties. Ça permet de dérouler des programmes ambitieux, comme le Plan national de développement 2026-2030.
Ok, donc la prévisibilité, c'est le maître mot.
C'est le premier pilier. Et le second?
Le second, c'est la performance économique brute. Et là, les chiffres parlent d'eux-mêmes. On attend une croissance du PIB de 6,4% en 2025.
C'est énorme.
Ça pourra même atteindre 6,6% en 2027. Pour comparer, c'est presque le double de la croissance moyenne des autres pays de la même catégorie de notation BB.
Et cette croissance, elle vient d'où? Parce que l'image qu'on a souvent, c'est encore le cacao. Justement, c'est ça qui change. L'économie se diversifie. Il y a toujours la construction, les services, mais de plus en plus, on voit monter en puissance les hydrocarbures avec le fameux gisement pétrolier Baleine et aussi les mines avec le projet aurifère de Koné.
Et ça, ce n'est plus juste des projets sur le papier et ça change vraiment le profil de risque du pays.
Ah oui, ça change tout. Le gisement Baleine est déjà en production. Cette diversification, c'est une sorte d'assurance-vie économique. Ça rend le pays beaucoup moins vulnérable à la chute des cours d'une seule matière première.
Je vois.
Ajoutez à ça une inflation très bien maîtrisée, sous les 2%. C'est un avantage de l'arrimage du franc CFA à l'euro et de la politique sérieuse de la BCEAO. Donc, stabilité politique, croissance diversifiée, inflation sous contrôle. Reste le nerf de la guerre, surtout quand on va comparer avec le Sénégal juste après. La dette. Comment se positionne la Côte d'Ivoire là-dessus? Et c'est peut-être là que la bonne gestion est la plus visible. La trajectoire est clairement à la baisse. La dette publique devrait passer sous les 56% du PIB d'ici 2027.
C'est un objectif ambitieux.
Cré. Mais au-delà du chiffre, c'est la manière de gérer qui est intéressante. Le gouvernement est proactif. Il n'attend pas les problèmes. Par exemple, il a racheté à l'avance des euro-obligations pour lisser les remboursements. Il diversifie aussi ses sources en allant chercher de l'argent au Japon avec des obligations samouraï, des obligations vertes.
C'est le comportement d'un émetteur très crédible, en somme.
Exactement. Ce portrait de la Côte d'Ivoire, presque premier de la classe, rend la situation de son voisin, le Sénégal, encore plus spectaculaire. Là, on change complètement de registre. On parle d'un mot qui fait trembler la terre. Dette cachée. Oui, c'est le mot. On entre dans une autre dimension. Le cœur du problème, c'est cette révélation, attribuée au chef de mission du FMI à Dakar, Édouard Gemayel. Entre 2019 et 2024, le Sénégal aurait accumulé, tenez-vous bien, près de 7 milliards de dollars de dettes non déclarées. 7 milliards de dollars. C'est colossal. Et cette citation du FMI, qui dit en substance « On n'a jamais vu une dette cachée de cette importance », ça fait froid dans le dos. Quelles sont les conséquences d'un tel séisme? Elles sont multiples et dévastatrices. La première, elle est purement mathématique. La dette du pays explose. Le ratio de dette sur PIB du Sénégal a bondi à 132%.
132%?
Voilà. Rappelez-vous qu'on vient de parler de l'objectif de 56% pour la Côte d'Ivoire. L'écart est un gouffre.
Pour bien comprendre, ça veut dire que le pays doit plus que la totalité de ce qu'il produit en une année entière. C'est une situation qui semble quasi insolvable.
Précisément. Et ça nous amène à la deuxième conséquence, peut-être la plus grave, la perte de confiance.
Oui.
La confiance, c'est l'actif le plus précieux pour un État. Et c'est le plus dur à regagner. Les agences de notation ont réagi tout de suite. Moody's, par exemple, a dégradé la note du Sénégal 3 fois en à peine 1 an.
Et cette dégradation, j'imagine, a un coût très concret pour la population.
Absolument. Quand votre note baisse, le taux d'intérêt auquel vous empruntez sur les marchés augmente. Et ça, c'est très direct. C'est moins d'argent pour construire des écoles, des routes, des hôpitaux. La dette cachée d'hier, c'est l'austérité de demain pour les gens.
Face à ce désastre, le Sénégal négocie avec le FMI. Mais j'imagine que le FMI ne va pas signer un chèque en blanc. Qu'est-ce qu'on demande au Sénégal pour prouver sa fiabilité?
Bien sûr, le FMI exige ce qu'il appelle des mesures correctrices. L'idée, ce n'est pas seulement de donner de l'argent, mais de s'assurer que le système qui a permis cette dérive soit réparé.
Des garde-fous, en quelque sorte.
Voilà. 2 mesures phares sont mentionnées. Premièrement, la centralisation de toute la gestion de la dette dans un seul ministère, pour éviter que différentes entités de l'État s'endettent dans leur coin sans contrôle.
Ce qui paraît être du bon sens.
Ce qui paraît, oui. Et la deuxième mesure?
La publication d'un audit complet et transparent de tous les arriérés de paiement de l'État. En clair, le FMI dit « Mettez toutes les cartes sur la table. On veut connaître l'étendue exacte des dégâts. » Le message, c'est la transparence d'abord.
La condition sine qua non. On peut vous aider, mais seulement si on est sûr que ça ne se reproduira jamais.
On a donc ces 2 trajectoires radicalement opposées. Mais ces 2 pays sont liés. Ils partagent la même monnaie, le franc CFA. Ils sont les 2 poids lourds de l'UMOA. Une crise pareille au Sénégal. Est-ce que ça ne risque pas de se propager comme une traînée de poudre? Les banques ivoiriennes, par exemple, détiennent beaucoup de dettes sénégalaises.
C'est la question à 1 million de dollars. Le fameux risque de contagion. L'agence S&P s'est penchée très en détail sur ce point. Et leur conclusion est assez nuancée et plutôt rassurante pour la Côte d'Ivoire.
Pourtant, les chiffres bruts sont bien inquiétants, non?
Oui, si on les regarde de face, il y a de quoi avoir peur. Les données montraient que les banques basées en Côte d'Ivoire détenaient environ 1,8 milliard de francs CFA de dettes publiques sénégalaises. C'est une somme colossale.
Oui.
Mais, et c'est toute la subtilité de l'analyse de S&P. Ils estiment que cette exposition est en réalité surestimée.
Surestimée? Comment est-ce possible? Les titres sont bien dans leur compte, non?
Ils y sont, mais pas forcément pour leur propre risque. S&P explique qu'une part très importante de ces titres a été achetée par les banques ivoiriennes pour le compte de clients, des investisseurs qui ne sont pas résidents de l'UMOA.
Ah, je vois.
Probablement des fonds d'investissement internationaux, par exemple, qui se sont servis des banques ivoiriennes comme d'un portail pour accéder au marché de la dette régionale.
Donc les banques ivoiriennes étaient plus une autoroute pour l'argent qu'une destination finale. Le risque n'était pas sur leurs épaules, mais sur celle de leurs clients étrangers. C'est un détail technique, mais qui change absolument tout.
Exactement. C'est le point clé. Le risque que portent vraiment les banques ivoiriennes sur leur propre bilan est bien plus faible qu'il n'y paraît. C'est pour ça que S&P estime que, même dans le pire des scénarios, une restructuration de la dette sénégalaise...
Le système ivoirien pourrait encaisser le choc.
Il aurait les reins assez solides pour l'absorber. Sans oublier le rôle de pompier de la BCAO, qui interviendrait évidemment pour garantir la stabilité.
C'est incroyable. Donc, si je comprends bien, la crise d'un voisin pourrait en fait, par un effet totalement inattendu, rendre la Côte d'Ivoire encore plus attractive.
C'est le paradoxe que S&P met en lumière. Il parle explicitement d'un phénomène de « flight to safety ».
Une fuite vers la qualité.
C'est ça. Face à l'incertitude au Sénégal, les investisseurs qui veulent rester dans la région vont chercher le havre le plus sûr. Et avec sa note rehaussée et sa gestion jugée rigoureuse, la Côte d'Ivoire apparaît comme la destination évidente. Donc oui, les malheurs du Sénégal pourraient indirectement renforcer son statut.
Le risque de contagion directe semble donc contenu, même si S&P qualifie la situation du Sénégal de précaire.
C'est une bonne synthèse. On a vraiment 2 récits qui s'écrivent en parallèle. D'un côté, la Côte d'Ivoire, qui récolte les dividendes de la stabilité et de la confiance. De l'autre, le Sénégal, qui paye le prix fort d'un manque de transparence passée.
Et pour être tout à fait complète, il faut rappeler que le tableau n'est pas non plus entièrement rose pour la Côte d'Ivoire. Des défis importants demeurent. Le risque sécuritaire au Sahel, c'est une menace réelle à ses frontières. Et certains indicateurs de gouvernance doivent encore progresser.
Absolument. Rien n'est jamais acquis.
Et toute cette histoire, en fait, nous laisse avec une question de fond, une question qui dépasse ces deux pays.
Oui.
Quand des milliards de dollars de dettes peuvent rester invisibles pendant des années au sein d'une union monétaire, comment peut-on vraiment évaluer la santé d'un État ? Ça interroge profondément les mécanismes de surveillance et de solidarité au sein de l'UMOA. Comment faire pour que la crise d'un membre ne finisse pas, un jour, par menacer tout l'édifice ? C'est le défi majeur qui est posé aujourd'hui.